With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous quotidien draft de Touchdown Actu, une pastille pour chaque jour jusqu'à la draft 2022 prévue du côté de Las Vegas. Et en ce huitième jour d'émission, on s'intéresse à une franchise mondialement respecté, quoique j'ai un doute là-dessus. On va parler.
Plus respecté que les Browns.
Ah ouais, encore en ce moment, c'est compliqué. Hein. On va parler des Falcons d'Atlanta qui ont donc le huitième choix de la draft. Et on a beaucoup parlé ces derniers jours d'équipes en reconstruction. Là, je crois, monsieur Victor Roulier, je vous salue d'ailleurs au passage.
Mais bonjour à toi, bonjour à tous.
Ah, en termes d'équipes en reconstruction, là, on a touché le pompon. Hein.
On est en déconstruction plutôt. C'est ça le vrai problème. C'est qu'au moins, les Texans, c'est tout, ils ont fait table rase, tu vois. Ils se disent, on redémarre. Vous, oui, là, vous êtes dans la période où vous déconstruisez. D'ailleurs, si Terrell est disponible pour un second tour, tu me.
Bon, ça suffit. Laisse-nous quelques bons joueurs quand même. On va essayer de faire comme ça. Mais c'est vrai que la star d'Atlanta en 2022 s'appellera Dead Money.
Oui, vous avez battu le record de Carson Wentz.
Hein, tout à fait. Je crois que rien qu'avec Matt Ryan, Julio Jones et Dante Fowler, je crois, on est à plus de 60 millions de dead money.
Oui, après, on a vu des équipes comme les Panthers à une époque faire 80, mais c'est vrai que 40 millions sur un joueur, par contre, c'est un record absolu. Ça va limiter, ça limite forcément. À court terme, après, à long terme, tu as plus de flexibilité, mais à court terme, ça limite tes mouvements.
Alors, les Panthers, n'importe quoi, j'ai rebondi sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc, les Falcons sont un premier tour, le huitième, qu'ils ont obtenu après leur belle saison 2022. Deux deuxièmes tours, deux troisièmes tours, un quatrième, un cinquième et deux sixièmes. C'est pas non plus délirant hein, pour une équipe qui repart d'une feuille blanche. Est-ce que je me risque à te poser la question des besoins prioritaires ? Parce que là, sinon, on est parti pour 25 minutes.
Ben, j'ai envie de dire, en défense, tout ce qui ne s'appelle pas Grady Jarrett et Edvin Terrell est prioritaire.
Ce manque de respect pour Deion Jones. Même si c'est vrai que c'est galère un peu.
J'aime bien Deion Jones, mais alors, l'année dernière, c'était son frère sur le terrain, ce n'était pas lui. Enfin...
Oui.
Donc, non, mais globalement, tout.
Je dis ça au moment où on enregistre cette émission. Peut-être que quand ce sera publié, il sera parti.
Ouais, c'est possible aussi. Mais pour le coup, voilà, je pense qu'il y a une défense à reconstruire. Il y a deux vrais leaders, mais tout le reste à reconstruire. Mm-hmm. En attaque, je trouve que la ligne s'est quand même bien comportée l'année dernière. Mm-hmm. Je trouve que, par exemple, un joueur comme Matt Hennessy, qui avait beaucoup déçu. En rookie, puisque ça va être sa troisième saison.
Oui, il rentre dans sa troisième.
C'est ça. Donc, il avait beaucoup déçu en rookie. Là, j'ai l'impression qu'il a été meilleur. Le Matthews est toujours là, Lindstrom toujours là. Enfin, globalement, solide. Il y a Pitts. Après, bah, il y a deux problèmes principaux. Un, quarterback. Et deux, les cibles. Parce qu'aujourd'hui, Cordarrelle Patterson, j'adore, hein, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Et les Zaccheaus et Frank Darby, ça ne fait pas rêver.
On va tout jouer sur des joueurs générationnels, en fait.
Bah, il y a Kyle Pitts, quoi. c'est tout, mais il va falloir avoir beaucoup d'autres joueurs générationnels pour réussir.
Oui, je te rejoins globalement. Oui. Je pense qu'il y a... La ligne va devoir être considérée, mais clairement pas en priorité par rapport à tout le reste. Je suis d'accord avec toi. Et je ne vais pas répéter ce que tu as dit pour la défense. Du coup, j'ai le lead. pour le huitième choix d'Atlanta. Alors, je suis très embêté parce que très franchement, j'ai toujours voulu un edge rusher. Mon chouchou reste potentiellement Jermaine Johnson. Je pense que Trevon Walker aurait pu plaire également à Atlanta. Receveur, je n'y crois pas une seule seconde en huitième choix, surtout pas avec cette classe-là. Ça me paraîtrait un suicide en bonne et due forme. Là, surtout un an après avoir pris Kyle Pitts, je pense que là, je viens de revoir sa sélection.
Je vois qu'il y a un tacle. Je vois que ça commence à me tacler, mais c'est pas grave, je saurais réagir.
Et du coup, je suis obligé. Le fait d'avoir signé Mariota, ça veut dire une seule chose, c'est qu'on va sélectionner un quarterback du côté d'Atlanta.
Et du coup, si on suit notre logique, Pickett a été pris par Carolina en 6.
Tout à fait.
Et c'est toi qui l'as pris, t'avais
le lead. Vas-y, pose-moi ta question.
Donc, vas-y. qui Atlanta prend en deuxième quarterback de cette draft?
Je pense qu'ils prennent Matt Corral.
Ok, donc pas seulement ta préférence, en prévision, tu penses?
Ma préférence, alors je le répète, j'aime beaucoup Malik Willis. Ma préférence, c'est Matt Corral.
D'accord.
Voilà. Donc au moins comme ça, il n'y a même pas de truc, parce que d'habitude, je me plante sur les quarterbacks. Donc là, j'aime bien les deux. Donc, mais je préfère quand même Matt Corral. Je pense que Malik Willis,
il
y a beau...
soient nuls, du coup.
Il se peut que si je les aime bien, oui, il y a de fortes chances. Mais en l'occurrence, et j'aime beaucoup Matt Corral. Joueur qui a eu un petit peu de retard à l'allumage entre guillemets du côté d'Ole Miss. Faut dire que l'ancien coaching staff qui ne me revient plus du côté d'Ole Miss, je crois que c'était Matt Luke, l'ancien head coach, c'était un jeu où on privilégiait un petit peu des quarterbacks très très mobiles, comme l'était l'ancien quarterback qui a repassé tight end. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas Matt Corral était un peu en balance sur le poste et était peut-être pas forcément avantagé par le système offensif qui était mis en place. On a vu qu'avec un système beaucoup plus axé sur du jeu vertical, j'en parlais la dernière fois, sur du jeu aussi un peu façon option, up-tempo, où vraiment on mise sur la vitesse et la prise d'espace, en tout cas sur le choix des zones intermédiaires. Matt Corral pouvait être assez bon, et je me dis que ce n'est pas un profil qui serait totalement déconnant, surtout qu'il a une certaine mobilité, ce ne serait pas déconnant par rapport à un profil comme Tannehill qui a pu avoir Arthur Smith du côté de Tennessee. Donc, en tout cas, je vois plus de similitudes entre les deux hommes qu'entre Willis et Tannehill. Ou voilà, du côté de Willis, même si tout ne me paraît pas acheté, surtout que je pense quand même que la ligne de Liberty était beaucoup, beaucoup moins bonne que celle d'Ole Miss. Pardon, je pense qu'avec Corral, tu as quand même moyen d'obtenir quelque chose de plus intéressant, ne serait-ce qu'à moyen terme. Ta sélection, du coup, ou ton alternative, en l'occurrence.
Bah, pour le coup, c'est vrai que moi, j'aime bien Corral. J'aime bien ton choix. C'est un joueur, moi, je pense qu'il va chuter plus que ça. Mais par contre, personnellement, ça ne me dérangerait pas que ce soit sélectionné en 8.
Je l'ai pas dit, excuse-moi, Victor, juste pour préciser. Ça avait été un gros point d'interrogation, justement, sa blessure vis-à-vis notamment du Combine. On l'a vu jouer et lancer, notamment lors du Pro Day. Donc, exactement. Peut-être également qu'il y a eu des éléments qui ont rassuré en ce sens. Je te laisse poursuivre.
Non, mais tout à fait. Après, comme tu dis, je pense que, en fait, la priorité, c'est Edge, tu l'as dit. Mais qui va tomber, quoi? C'est un peu ça le problème. Tu n'as pas envie d'un Carl Aftis, tu as plus envie d'une machine à sac. Donc, en effet, un Jermaine Johnson, s'il tombe, c'est automatique. Mais je pense qu'il y a des chances qu'il ne soit plus là, pour le coup. Donc, au niveau des receveurs, puisque tu ne voulais pas en 8, tu penses que c'est un suicide. Mais moi, je pense que Marcus Mariota, votre quarterback de l'avenir,
et ouais, notre futur vedette,
il a besoin de soupapes de sécurité. Donc, on parlait de Treylon Burks. Alors, j'ai déjà parlé de Treylon Burks avant, donc je vais parler de Garrett Wilson, tiens, qui pour moi, je n'ai pas envie de sélectionner en 8, mais je pense qu'il sera sélectionné très haut. Ça fait partie de ces joueurs-là. À mon avis, les équipes vont être un peu amoureuses de lui. Donc, Garrett Wilson, qui est quarterback d'Ohio State, c'est un joueur, un super coureur de tracé, qui sait récupérer la balle dans à peu près toutes les positions. Il est assez polyvalent. C'est un peu Jerry Jeudy, je trouve. Je ne sais pas si tu, dans le côté un peu, quelle que soit ton attaque, tu trouveras un rôle pour lui. Parce qu'il est tellement… ce côté route runner, enfin, coureur de tracé, ça marche dans toutes tes attaques et tu trouveras forcément des routes qui lui conviendront. Donc, pour le coup, ce n'est pas impossible en 8 que Atlanta aille sur un receveur. Je suis d'accord avec toi que Edge doit être la priorité. Je ne serais pas surpris que quarterback soit aussi un des choix. C'est très ouvert pour le coup. Et je ne serais pas non plus surpris que vous échangiez en arrière pour le coup.
Je suis d'accord. On ne fera pas un trade-up en tout cas, j'ose espérer. Non, à quoi non, que, non. Si on va aller chercher un QB, je ne sais pas s'il y a autant d'équipes que ça qui vont se battre pour un QB cette année, hein, ce qui reste.
Oui, ça, c'est pas faux.
Donc, après, voilà. Encore une fois, j'ai déjà saccagé ta préférence tout à l'heure. Moi, c'est vrai que j'ai pas de receveur dans le top 10, voire dans le top 15. Donc, c'est aussi pour ça que je te dis que numéro 8, ça me paraît. Mais encore une fois.
Mais encore une fois, il y a la différence entre ce qu'on prévoit et ce qu'on aime. Moi, je n'ai pas de receveur dans mon top 15 personnel non plus. Mais je pense qu'il y aura des receveurs pris dans le top 15.
Ce n'est pas impossible. Je te rejoins là-dessus. Du coup, ton deuxième joueur, alors, t'as vu, je n'ai rien dit. Je m'avance sur rien du tout. Qui est ton deuxième joueur pour Atlanta?
Du coup, partons du principe qu'il n'y a pas eu de Edge au premier tour.
Oui.
OK. Boye Mafé.
Très bien.
Ça te va? Tu es content?
C'est parfait.
Ah, je me dis quand même. Allez, une fois sur deux, je te fais plaisir. Boye Mafé, dans le genre phénomène athlétique, vitesse, explosivité, ce que tu veux, on est pas mal, hein, globalement. On est sur un joueur qui est assez incroyable, selon moi, qui est brut, mais Atlanta a le temps, je pense, de développer les joueurs. Tu n'as pas besoin d'un joueur qui est déjà à 100% dès sa première année. Pas, enfin, sans faire injure à Atlanta, tu n'es pas en train de jouer le titre cette année. Donc, après, certains vont dire qu'il est meilleur en 3-4. C'est une considération légitime. Aujourd'hui, je pense qu'il est adaptable aux deux. Je pense qu'il est encore suffisamment brut pour que les coachs puissent en faire ce qu'ils ont envie d'en faire, donc le transformer pour une 34, pour une 43.
En fait, si je me permets juste de te couper, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une taille intermédiaire donc qui déjà ne le rend ni rédhibitoire sur un poste ni sur l'autre. Et il a alors le poids, je ne sais plus combien ça fait, 265, mais en tout cas, c'est plus ou moins intermédiaire aussi. Mais il a une explosivité en tout cas qui, du coup, ne le transforme pas en defensive end un peu balourd, quoi.
Donc, ouais,
il a vraiment cette versatilité, cette polyvalence, pardon. Extrêmement notable pour la position. C'est peut-être un des edge rushers les plus polyvalents du plateau, à mon sens.
C'est ça. Et puis, au fil de la saison, il était de plus en plus impactant. C'est-à-dire que son vrai problème, c'est qu'il avait une action où il était impactant, une action où il était totalement hors du jeu et une action moyenne. Et puis, peu à peu, il avait deux actions où il était impactant et une action où il était en dehors du jeu. Puis, à la fin, deux actions où il était impactant et une action où il était moyenne. Et tu te dis vraiment, s'il continue à progresser comme ça, et qu'à chaque action, il peut avoir l'intensité qu'il arrive à mettre dans certaines phases de jeu, ça peut vraiment devenir un gros titulaire NFL. Par contre, il faut accepter l'idée que la première, peut-être même la deuxième année, ça sera de la construction.
En alternative, je suis parti sur un edge rusher aussi.
Okay.
Y a un profil qui m'intrigue beaucoup dans le système de Dean Pease et encore plus depuis la signature de Lorenzo Carter. Je m'interroge beaucoup.
Tu peux essayer.
Vas-y.
Logan Hall.
Logan Hall.
Ah, yes. J'y ai pensé.
Et très franchement, j'ai fait sa fiche en plus très récemment et c'est vrai que c'est vraiment un profil. Je sens que ça fit avec Dean Pease. Donc, je ne sais pas exactement parce que c'est un joueur qui athlétiquement est assez monstrueux. C'est un peu dans la même lignée que Peyton Turner l'année dernière, hein, vu que c'est un autre genre qui sort de Houston. Mais là encore, tu vois, on est plus dans l'aspect, bon, vu qu'on aime bien reprendre cette expression, on est plus dans l'aspect plafond que plancher pour Logan Hall. Il y a encore énormément de choses à en tirer, et c'est ce que je disais. Lorenzo Carter est un peu plus sur un profil d'outside linebacker 34, même si franchement c'est un peu plus de choses à Atlanta. Logan Hall, à l'inverse, il a un physique de defensive end 34, mais je pense que tu m'as convaincu là-dessus. Enfin, en tout cas, je me suis rangé dans ton camp. Je pense qu'il terminera à terme defensive end 43. En tout cas, il a les armes pour. Donc, très franchement, il a une polyvalence extrêmement notable. Sur le run stop, il est précieux. En termes de pression, on l'a vu bull rusher des joueurs, alors que pourtant, c'est pas un petit tank, mais il a une. Je sais pas comment dire ça. C'est pas un joueur trapu, je veux dire. Justement, il est extrêmement longiligne et c'est aussi ce qui interroge sur sa capacité à pouvoir jouer sur sa position préférentielle à l'avenir et sur sa manière d'optimiser la technique. Mais on l'a vu des fois, vraiment mettre des joueurs, violenter des joueurs gratuitement, quoi. C'est... Donc non, bientôt il le fera. Bientôt il le fera moyennant salaire. Mais je pense vraiment que ça peut être une possibilité s'il termine en début de deuxième tour, ce qui pour moi est plus probable qu'une fin de premier, surtout quand on parlait des principaux edge rushers qui risquent de sortir au premier tour. Boye m'a fait inclus. Hein. J'exclus pas David Ojebo. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se passer au niveau de sa. De son tendon d'Achille, c'est ça, mais ça risque de prendre un petit peu de temps malgré tout et d'effrayer quelques équipes.
Ah, bah, il va pas jouer en rookie ou alors. De toute façon, c'est Sidney Jones. Hein. Il jouera en décembre un match ou deux au mieux.
Donc, c'est ce qui peut aussi permettre, pour parler de manière un peu cynique, à Logan Hall de terminer au deuxième tour et du coup à une équipe de se positionner dessus. Atlanta ayant d'énormes besoins en défense. Je pense que Logan Hall, ça peut être un fit intéressant.
Ouais, tout à fait.
Je te laisse terminer sur les sleepers.
Alors, du coup, je suis parti en receveur, hein, parce que tu ne veux pas de receveur, mais moi, je vais t'en donner.
Il y a un moment. Le mec qui donne un receveur au premier tour et en sleeper.
Non, au premier tour, on s'est mis d'accord sur Matt
Corral. Ah d'accord,
sur Corral. On a fait Matt Corral et un Edge.
J'apprécie le consensus.
Ah bah, tu vois, je suis un homme de négociation. Il y a un joueur.
Oui.
Qui a vu sa carrière un peu brisée par une blessure l'année dernière, alors qu'il montait.
Oula.
Enfin, brisé, tout étant relatif, mais qui se retrouve en fin de draft, alors qu'il devrait être au début, pour moi, c'est Reggie Robertson Jr.
Ouais.
Et du coup, comme ça semble universellement reconnu qu'il va être au 5e, 6e, 7e tour, pour moi, c'est un vrai. Enfin, c'est un joueur qui. OK, il n'a pas retrouvé toute son explosivité en 2021. Suite à sa blessure en 2020, ce n'est pas le Reggie Robertson de 2019 qui avait fait 800 ou milliards ou quelque chose comme ça. Mais ça reste un joueur rapide, ça reste un bon coureur tracé, ça reste des mains sûres. Alors, des mains sûres quand il s'agit de ne pas faire de drop, des mains à travailler quand il s'agit de ne pas faire de fumble. Donc, ça, c'est un autre problème. Pour le coup, que ce soit en retourneur, que ce soit en receveur, je pense que c'est un profil qui n'est pas inintéressant. Et si il est oublié et qu'il tombe au sixième tour, bah, ça peut faire partie des joueurs sur lesquels tu prends un risque.
Ouais, je vais être obligé de partir. Enfin, obligé. Il n'y a rien d'obligé en l'occurrence, mais sur la position de receveur, forcément. Alors, on parle bien des sleepers, parce que je pense qu'il peut y avoir des receveurs, draftés un peu plus haut. Si je m'intéresse sur une position de slot receiver, je suis très intrigué par Josh Johnson, receveur de Tulsa, qui en effet a montré des bonnes choses, notamment lors du bowl. Alors, je crois que c'était le Shrine également, ou alors c'était l'autre, je ne veux pas dire de bêtises. Mais on voit que c'est un joueur avec un gros potentiel, assez bon partout sans être forcément excellent dans un domaine de prédilection. Je l'ai vu quand même avoir des mains assez solides, des tracés plus connets. Donc très franchement, c'est pas le gabarit le plus impressionnant, mais on voit qu'en tout cas niveau vertical sur du 50-50, il est capable de faire des différences. Franchement, ça peut être un pari intéressant, encore une fois, dans une classe de receveurs où je pense que certains peuvent se dire on ne va pas sélectionner des joueurs trop haut et on va peut-être un peu plus prendre notre temps, ce qui peut justement faire descendre un peu la hiérarchie sur certains joueurs. Et ça peut être une bonne opération, je pense, sur du slot receiver en doublon potentiellement d'un autre receveur que tu drafterais peut-être en peut-être plus, par exemple, aux alentours du troisième tour. Josh Johnson, si je ne dis pas de bêtises et que je revois un petit peu les différentes sélections, ça peut être un solide cinquième tour.
Oui, c'est vrai qu'il y a, toute une... Mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard hein, avec d'autres équipes, mais il y a beaucoup, beaucoup de receveurs de deuxième, troisième tour intrigants. Donc après, c'est vrai que selon que tu aies réussi à en choper un ou pas, ça va beaucoup influencer derrière tes choix. Mais je comprends, c'est un joueur qui peut être intéressant. Et on voit que les receveurs slot, qui étaient un peu mal aimés à une époque, sont quand même de plus en plus considérés et importants dans la NFL d'aujourd'hui. Donc,
ça fait du sens. Voilà, et surtout que, comme je disais, Matt Corral a montré quand même une bonne aisance dans le scénario qu'on a pris à trouver ses receveurs assez rapidement et efficacement dans les zones intermédiaires. Donc, s'il y a un profil comme Josh Johnson qui est capable de bonifier après en yards après réception les passes qui lui sont adressées efficacement, ça peut être une collaboration à développer dans les années à venir.
Oui, tout à fait.
Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les Falcons d'Atlanta. Merci encore, Victor, d'avoir été en ma compagnie. Demain, on s'intéresse donc au 9e choix de la draft, à savoir du coup, le 9e choix de la draft initiale, puisqu'on s'intéressera aux Denver Broncos. Malheureusement, pas de premier tour les concernant, mais il y aura pas mal de choses à dire sur la nouvelle franchise de Russell Wilson. Merci encore, Victor, d'avoir été en ma compagnie. Très bonne journée à tous. Toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Salut.
Merci à toi.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.